Bon, écoutez, si vous le voulez bien, et pour ne pas que les retardataires pénalisent au-delà du raisonnable ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure, nous allons commencer. Je suis le président de la Ligue des droits de l'homme et je suis évidemment heureux d'accueillir les militants associatifs présents et syndicalistes également, et évidemment la presse, singulièrement ceux qui ont fait l'effort de se déplacer, dans cette salle Dreyfus. Je suis heureux de les accueillir pour deux raisons. D'abord parce que, bien évidemment, nous sommes particulièrement sensibles à la Ligue, à assurer notre présence dans les collectifs interassociatifs sur la question du logement. Cette question est une des questions les plus brûlantes qui se posent en France, quel que soit l'aspect par lequel on l'aborde, qu'il s'agisse du logement social, de l'hébergement d'urgence. Et elle est à nos yeux constitutive des droits fondamentaux qui permettent à toute personne de vivre dans la dignité. C'est pourquoi notre investissement sur ce terrain est de longue date, et c'est pourquoi nous sommes particulièrement satisfaits, c'est la deuxième raison, de pouvoir vous informer d'initiatives que nous avons prises, à l'initiative du GAL et avec d'autres, de la création d'un 115 juridique. 115 qui est un outil qui sera mis à disposition des mal logés, des militants associatifs, syndicalistes, des personnes qui s'intéressent à la défense et à l'effectivité des droits, singulièrement dans le logement, pour faire jouer la loi et obtenir un hébergement. Alors les interventions qui vont suivre reviendront sur différents aspects et de la situation et de ce que nous voulons faire. Pour le dire très simplement, il s'agit de mettre à disposition de tous un site internet de ressources qui permettra, donnera des explications sur les procédures à suivre, étant entendu que la procédure dite du référé liberté est la plus rapide, présente l'avantage de ne pas être coûteuse et présente aussi singulièrement l'avantage de mettre l'État, dont les responsabilités sont énormes, au pied du mur de ses responsabilités et permettre d'obtenir satisfaction. Bien évidemment, nous ne prétendons pas avoir, sur la base des avancées du droit et avec cet outil, une panacée. C'est une étape, un outil supplémentaire dans une suite de mobilisations qui sont en train de se tenir et qui vont s'accélérer dans la période qui va venir, compte tenu que nous sommes à la fin de la trêve hivernale et que d'autres rendez-vous logements, entre guillemets, sont devant nous. Voilà, je vais laisser la parole aux militants qui sont partie prenante de cette initiative, une initiative à la fois de droit et de combat, c'est-à-dire que nous y sommes à l'aise, et nous serons ensuite à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien nous poser. Jean-Baptiste.
Merci Pierre. Donc voilà, donc ce site a vocation à, on va dire, à lutter contre cette tendance détestable de l'État qui, dès lors que les structures d'hébergement sont pleines, laisse les gens dehors ou les remet à la rue dès lors que le thermomètre a remonté de quelques degrés. Bon, c'est ce qui va se passer le 31 mars. Plusieurs milliers de sans-abri vont être mis à la rue. Nous, on a rencontré depuis 2 ans, à la suite de la réforme de l'État, de l'organisation de l'État au niveau de la région, on a rencontré des difficultés très importantes également. Ça, c'est l'approche du 15 mars, hein, demain c'est le 15 mars, pour l'hébergement de familles qui se retrouvent à la rue, expulsées de leur logement. Donc on a des gens qui ont galéré pour trouver même une solution d'hébergement avec leurs enfants, qui étaient ballottés, c'est le terme, hein, qui étaient soumis à politique d'hébergement de ballottage, hein, et de département. Donc avec des enfants qui pourraient aller à l'école le matin, doivent traverser 2 ou 3 départements un jour, et puis le lendemain aller dans un autre, etc. Donc il y a évidemment l'impossibilité de suivre une scolarité normale. Alors, c'est pour ça que, et puis souvenez-vous qu'on a eu aussi beaucoup de familles qui campaient l'année dernière, notamment à la Courneuve. On a demandé à plusieurs reprises à l'État de mettre en place une solution d'hébergement, il ne l'a pas fait. On a saisi le tribunal à l'époque, 93, l'hôtel 93, qui a rejeté notre demande. Bon, voilà, est venue cette heureuse décision du Conseil d'État qui vient rappeler à l'État ses obligations en matière d'accueil. Alors, l'accueil inconditionnel, il est clair, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toute personne, quelle que soit sa situation administrative. La loi ne discrimine pas la situation des gens. Toute personne sans abri, alors c'est l'article 345.2 et suite, donc 2.2, 2.3, et qui sont justement les articles de loi que le Conseil d'État demande à l'État de mettre en œuvre. Donc, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité humaine, la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène. L'article suivant dit, j'attire votre attention là-dessus, toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Et cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adapté à sa situation. Voilà. Autrement dit, quand l'État remet des gens dans la rue, il est dans l'illégalité. Et c'est ce qu'a rappelé, alors le Conseil d'État a rappelé la nécessité de mettre en œuvre l'obligation, en tout cas pour l'État, de mettre en œuvre ce dispositif. Ensuite, il y a eu trois décisions, plusieurs décisions, mais il va y avoir de plus en plus, évidemment, des tribunaux administratifs qui ont confirmé la validité, d'une part, de cette procédure d'urgence, donc la possibilité de saisir et d'obtenir une décision de tribunal administratif en quelques jours, et puis, d'autre part, de l'obligation d'accueil par l'État des personnes qui sont sans abri. Après, la bataille s'ouvre aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres choses, évidemment, sur lesquelles il va falloir avancer, notamment, par exemple, l'obligation de maintien, c'est-à-dire de l'obligation que le droit qu'ont les sans-abri de demeurer dans la structure d'hébergement jusqu'à ce qu'une orientation soit faite. Et là, il faut parler de droit. Donc on parle aujourd'hui de la mise en œuvre d'un nouveau droit, le droit à l'hébergement. Il est incomplet, bien sûr, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est le droit au logement. Mais n'oublions pas qu'on n'a jamais autant de sans-abri dans nos rues. La Fondation Abbé Pierre l'a dit, a annoncé 133 000, la Cour des comptes 150 000 sans-abri. Bon, et le nombre de sans-abri augmente d'année en année. Et franchement, c'est pitoyable dans notre société de voir, et c'est attristant, de voir des femmes, des enfants, des hommes, bon, rester dans la rue. Et on sait combien c'est violent, combien c'est... Enfin, être mis à la rue, c'est un châtiment, finalement. C'est un châtiment, puisque ça finit par une dégradation rapide de la santé, par une... comment dirais-je... une exclusion sociale, on perd son boulot, et on en meurt très vite, puisque la moyenne de décès des sans-abri, selon l'association Les Morts de la Rue, c'est 45 ans. Donc, vous voyez, c'est un châtiment qui est cruel, qui finit par la mort, et qui se... Ah bon, voilà, donc franchement, c'est indigne de nos sociétés, c'est cruel, et il faut absolument que tout le monde soit logé convenablement. On n'ira pas, moi j'irai pas au-delà, mais il y a aussi, donc sur ce site, il y a aussi une pétition qui va pour la mise en œuvre de l'obligation, enfin du droit à l'hébergement pour les sans-abri, du droit au logement, c'est un objectif, enfin en quelques lignes, quoi, franchement. Bon, donc tous les juristes qui voudront avoir les informations sur ces premières décisions, la procédure à suivre, les papiers à remplir, vous voyez, les documents à réaliser, bon, voilà, il y a tout. Tout est fait pour l'instant. Et ce qu'on attend, c'est que aussi ce site soit un site d'échange, parce que les juristes qui auront tenu des décisions, qui les transmettent, et que ce soit un site qui permette d'aller vite vers la mise en œuvre de ce droit. On ne veut plus de sans-abri dans notre pays. Si la loi est appliquée, on n'en aurait plus.
Merci Jean-Baptiste. Notre ami du RESF.
Bonjour. Alors, par rapport aux sans-abri, je vais parler un petit peu de ceux qu'on ne voit pas, des victimes silencieuses et invisibles, les sans-abri qui sont aussi sans papier. On les voit pas parce qu'ils se terrent, en fait. Ils se terrent dans les caves, dans les garages, dans les endroits les plus sordides des quartiers dévastés avant la rénovation urbaine. Ils se terrent parce que non seulement il faut qu'ils se mettent à l'abri, mais il faut qu'ils fuient la police et les contrôles de peur d'être expulsés. Donc c'est très difficile d'estimer le nombre de sans-papiers sans-abri pour cette double raison. On a quand même quelques estimations, ils sont entre 200 000 et 400 000 en France sur le territoire métropolitain. Entre 200 000 et 400 000, c'est l'estimation qu'on fait grosso modo. Et on peut penser qu'il y en a une très très forte proportion qu'on ne voit pas, mais qui effectivement sont des itinérants, des abris, des sans-abris itinérants. On a aussi quelques chiffres, notamment sur ceux qui ne sont pas encore sans papier, mais qui vont le devenir. Par exemple, les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont des SDF potentiels. Pour vous donner une idée des chiffres, l'année dernière, en 2011, il y a eu 50 000 nouvelles demandes d'asile. Les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile peuvent héberger 21 000 personnes. Le taux de disponibilité des places annuellement est de 7 000. Faites le calcul. Voilà. On estime aujourd'hui à peu près 35 000 le nombre de demandeurs d'asile qui sont effectivement non hébergés par les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Ils sont non hébergés et on sait qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Dans les demandeurs d'asile ne sont comptés que les adultes. Les enfants, ça compte pas. Donc à cela, il faut rajouter les enfants. 85% des demandeurs d'asile seront déboutés de leur demande. Dès l'instant où ils seront déboutés de leur demande, ceux qui ont eu la chance d'être hébergés dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile seront jetés à la rue avec femmes et enfants. D'autant plus rapidement qu'il y a effectivement un problème au nombre de places. Il n'est pas rare de voir d'ailleurs le concours de la force publique pour jeter tout le monde à la porte, CRS compris. C'était le cas à Tours, notamment au mois de janvier. Il y a aussi tous ces mineurs, ces enfants, ces adolescents qui arrivent seuls sur le territoire et qui dorment à la rue par dizaines et dizaines, chaque soir, notamment à Paris. Non seulement ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, non seulement ils sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant, non seulement on ne s'en occupe pas, mais en plus, ils ne sont même pas hébergés. Quand ils ont la chance de se faire héberger, ces jeunes qui sont isolés, qui arrivent tout seuls ici, qui sont sans famille, le jour de leurs 18 ans, très souvent, l'aide sociale à l'enfance ne reconduit pas leur prise en charge et les jette à la rue. Donc ils se retrouvent tout seuls, sans famille, sans papier, sans argent et sans abri. À RESF, nous les défendons pour les aider à se faire régulariser. Et c'est pas rare qu'on ait à héberger les uns ou les autres des jeunes qui sont en cours de scolarité ou qui viennent juste de décrocher un BEP et que l'aide sociale à l'enfance met à la porte. Et puis, ce sont aussi toutes ces familles et ces enfants qui grandissent avec les nôtres, là, dans les mêmes écoles, sur les mêmes bancs d'école, qui du jour au lendemain se retrouvent sans toit et sans droit. La décision du Conseil d'État doit permettre de mettre un terme à tous ces drames. Tout à l'heure, il parlait de l'expérience de vie des sans-abri, Jean-Baptiste, en disant 45 ans. Je rappelle notamment que parmi les drames, l'année dernière à Rennes, il y a une dame sans papier qui était à terme de sa grossesse, qui a été abandonnée à la rue. Elle a accouché, son bébé a survécu, mais pas elle. C'était en plein hiver. Voilà, ça donne ce genre de choses. Et je pense qu'il y en a aussi, il y en a beaucoup d'autres, ça c'était quelque chose qui est très médiatisé, mais la mort, elle est là tout de suite. Le 115 juridique va permettre d'unir nos efforts pour que la liberté fondamentale d'avoir un toit ou se mettre à l'abri soit respectée. Et pour nous, Français et étrangers, on se bat pour qu'il y ait l'égalité des droits. Et avec ou sans papier, un toit, ça doit être un droit.
Et bien, puisqu'on parle de droit, peut-être que nous parlons de ça que depuis le début, mais le syndicat de la magistrature.
Je suis donc Odile Barral du Bureau national du syndicat de la magistrature. Alors, nous sommes là aujourd'hui parce que j'allais dire, déjà, pour le syndicat de la magistrature, il est évident qu'un combat pour faire respecter des droits, et un droit aussi fondamental que le droit au logement, fait partie de notre objet. Enfin, depuis sa naissance, le syndicat de la magistrature a choisi de s'engager dans le mouvement social pour la défense de tous ces droits. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est que même si nous ne sommes pas donc en première ligne sur ce combat, puisque c'est des litiges qui sont traités d'abord, qui sont traités par la juridiction administrative, les juges judiciaires sont finalement aux premières loges, si vous me permettez l'expression, pour constater les ravages et les dégâts pour un individu, pour une personne, de se retrouver sans logement. Je veux dire par là que comment est-ce qu'on peut exercer un droit de visite vis-à-vis de ses enfants et aller en demander un devant le juge des affaires familiales ou en débattre si on n'a pas même pas un logement ou un hébergement même d'urgence? Comment est-ce qu'on pourrait exercer une mesure de protection comme une mesure de tutelle ou une mesure de curatelle pour quelqu'un qui a des difficultés psychiques à partir du moment où il n'y a même plus de lieu pour qu'on aille le voir et qu'il est donc dans la rue? Et des questions aussi, je pense, encore plus difficiles pour les juges des enfants qui sont confrontés aujourd'hui, depuis plusieurs années d'ailleurs, mais c'est une situation qui s'aggrave, à des familles donc, qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, ce sont des enfants en danger. Est-ce qu'il faut envisager pour autant de les séparer de leurs parents? C'est évidemment un débat vertigineux. Mais c'est une question donc, que maintenant les juges des enfants rencontrent compte tenu de ces familles à la rue. Et puis, je ne vais pas détailler, mais je voudrais rejoindre ce que vient de dire RESF sur les mineurs isolés à la rue, parce que c'est vraiment une situation à laquelle aussi les juges des enfants sont confrontés. Alors, je ne serai donc pas longue du tout, parce que malheureusement, nous soutiendrons tant que nous pourrons cette action, mais nous ne sommes pas les juristes les plus armés, évidemment, pour porter de l'aide. Les avocats seront en première ligne là-dessus. Mais je voulais encore redire combien la cinquième magistrature se réjouit de cet appel et voudrait y apporter ses forces.
Il y a les avocats.
Oui. Alors, bien évidemment, Marc Le Cacheux, avocat au barreau de Paris et avocat au SAF, au syndicat des avocats de France. Je fais partie de la commission consommation logement. Et bien évidemment, j'ai entendu les termes de combat, les termes de bataille juridique. Et effectivement, nous, en qualité d'avocat, membres, syndicalistes, membres du syndicat des avocats de France, bien évidemment, nous sommes entièrement, nous adhérons entièrement à cette démarche, puisque ça fait partie de notre de la philosophie de notre syndicat, de nos gènes propres, puisque le syndicat des avocats de France a été fondé sur des valeurs d'humanisme, d'humanité et surtout de respect des droits fondamentaux pour les personnes défavorisées. Et bien évidemment, nous, en qualité d'avocats, nous serons justement en première ligne dans les tribunaux administratifs pour faire respecter ce droit fondamental qui est le droit à l'hébergement d'urgence, et que, bien évidemment, nous prenons acte du fait que la loi Dalo qui avait nourri beaucoup d'espoir de la part des militants associatifs, mais aussi des demandeurs de logement et d'hébergement, n'a abouti qu'à quelque chose sur le papier de théorique, mais sur le terrain. Nous, avocats qui plaidons devant les tribunaux administratifs, nous nous sommes rendus compte que cette loi ne suffisait pas et qu'il fallait sans arrêt, par la voie juridique, par la sollicitation de l'État, des préfets, il fallait véritablement rendre effectif ce droit. Et que, bien évidemment, nous, en qualité de syndicat des avocats de France, nous serons en première ligne pour assurer véritablement ce combat pour assurer pleinement et entièrement le respect des principes de cette liberté fondamentale qui est le droit de se loger et d'être hébergé. Voilà, j'en dirai pas plus. Maintenant, place au combat et nous verrons ce que ça donnera véritablement sur le terrain. Voilà.
Merci. La Fondation Copernic.
Oui, Claire Lestrade, directrice générale de la Fondation Copernic. Il me semble que la formule est heureuse, qui rassemble dans une même phrase droit et combat, et c'est ce qui nous rassemble ici. Ce qui est très neuf dans cette initiative, c'est aussi l'arc des forces et des compétences. qu'elle rassemble. Et il est fondamental non seulement que le mouvement social dans son ensemble soit rassemblé, que les associations, les syndicats s'engagent, mais bien sûr au premier titre les magistrats et les avocats particulièrement qui là ont un rôle absolument central à jouer. Ce qui nous tient à cœur pour ceux qui sont déjà engagés alors de très longue date ou plus conjoncturellement dans la lutte pour le droit au logement, c'est que, bien sûr, la législation existante soit améliorée, ça va sans dire, mais d'abord, et ce serait déjà une étape fondamentale, que le droit qui existe soit appliqué. Et on est dans cette logique, là, maintenant, d'associer la mobilisation pour l'amélioration des conditions légales d'existence des uns et des autres, mais plus simplement d'abord imposer l'effectivité du droit existant qui, à défaut d'être parfaitement complet, et déjà permettrait déjà d'avancer considérablement et d'améliorer tout à fait sensiblement la situation des uns et des autres. Donc cet arc de force et cet arc de compétence, à notre avis, nous, pour Copernic, est parfaitement fondamental et pour agir et pour se mobiliser sur le long terme. Parce que ce qu'on voudrait aussi dire, c'est que la campagne nationale unitaire, plus globalement, qui s'est mise en place pour le droit au logement, elle est déjà engagée depuis quelque temps, elle va durer encore longtemps. Bien au-delà de la campagne des présidentielles, parce que personne n'est dupe, on n'aura pas d'amélioration immédiate. Donc la lutte est engagée. Il est formidable d'ailleurs que plus ça va et plus on soit nombreux et nombreuses à être rassemblés dans cette logique. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est le long terme. Je suis navrée, je crains que ce soit moi.
C'est charmant.
Voilà, navrée. Donc, dans cette logique d'application du droit déjà existant, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est d'expliciter les procédures complexes. Elles existent, mais elles sont difficiles d'accès et il est compliqué pour les usagers d'abord, mais aussi pour les militants, les bénévoles, les professionnels, de s'emparer de procédures dont souvent on ignore sinon l'existence, mais au moins le déroulement, l'agenda, les contraintes. Donc c'est un outil de praticité, c'est un outil d'accessibilité, c'est un outil de lutte et de mobilisation. Donc c'est une excellente nouvelle aujourd'hui de nous voir tous rassemblés ici et porter ce nouveau projet.
Merci. Le COPAF.
Voilà, juste un petit mot sur le dire. Évidemment, nous, on est une association qui soutient les délégués et les comités de résidents dans les foyers de travailleurs migrés. On est engagé dans un combat depuis 1996 maintenant pour essayer de faire étendre le droit aux gens qui habitent dans les foyers de travailleurs migrés. Alors, on est signataire de cet appel, on va participer, y compris dans les lieux qu'on connaît, dans les foyers d'immigrés. Il faut quand même rappeler que quand l'État prend en charge ou fait ce qu'il appelle le logement accompagné, parce que c'est le terme qui est consacré, si vous regardez sur le site de l'INAPO qui regroupe les différents gestionnaires de résidence sociale, c'est le terme qu'il utilise. Ce logement accompagné, depuis 1997, l'État investit de l'argent, soi-disant, pour construire des places de résidence sociale. Les résidences sociales sont censées accueillir, entre autres, toute personne qui a difficulté à trouver un accès au logement ordinaire, au logement de droit commun, que ce soit dans le logement social ou le logement privé. Donc, ça concerne toutes les populations, y compris les sans-abri dont on est en train de parler là maintenant. Or, ce qu'on voit dans la réalité, c'est que la très grande majorité de ces résidences sociales sont en fait des foyers de travailleurs migrés transformés. Des foyers de travailleurs migrés qui sont transformés en autre chose et où, grosso modo, ce qu'on dit aux anciens résidents immigrés, c'est « poussez-vous que je m'y mette mes pauvres ». Et évidemment, les résidents des foyers résistent. Évidemment, on arrive avec des situations bancales où la moitié des résidents sont des résidents des anciens foyers qui sont sous un régime puisqu'on leur permet d'avoir une résidence pérenne dans ces lieux. L'autre moitié des résidents, c'est des résidents qui entrent sous des nouveaux contrats résidence sociale qui sont des contrats extrêmement contraignants et extrêmement limitatifs sur le plan des droits. Très loin du droit de locataire. Alors, ce qu'on propose aux journalistes qui sont ici, c'est d'une part regarder un peu le site du COPAF parce qu'on a un projet de loi sur lequel on va faire campagne qui grosso modo porte à renforcer les droits à la vie privée des habitants des résidences sociales, d'autre part à reconnaître les comités de résidents et les instances de représentants des résidents, notamment en ce qui concerne la gestion, la co-gestion de la vie collective, parce que peut-être j'ai pas besoin de dire que quand même un des aspects positifs des anciens foyers de travail immigrés, c'était qu'il y avait une vie collective forte, il y avait des espaces pour l'expression forte de la vie commune. Et puis aussi, il y a notre cher collègue Jean Bélanger de CGT 93 qui nous invite, si vous voulez, rencontrer quelques vieux Algériens qui sont aussi sujets à un harcèlement de la part des autorités en ce moment, parce que ce sont des fraudeurs reconnus du droit français. À partir du moment que vous touchez la PL, que vous touchez le niveau de vieillesse et que vous dépassez un ou deux jours le maximum pour rester en dehors de votre pays, vous êtes un fraudeur et un voleur de l'État. Et il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques sur ce plan-là. Il y a une porte ouverte, un foyer Épiné, ADEF, 250 Avenue de la République, Épiné, le samedi 25. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire.
Eh bien, merci. La parole au CAL, qui, me dit-on, n'est pas du tout le comité d'action lycéen, mais le comité d'action logement.
Voilà.
C'est un problème générationnel.
Donc, Violette Volsan, du comité action logement. Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous avons... le juge administratif a consacré une jurisprudence historique en matière d'hébergement. En effet, le Conseil d'État a érigé le droit à l'hébergement d'urgence qui avait été reconnu par la loi Molle en 2009 au rang des libertés fondamentales. Ça signifie qu'il est désormais possible pour une personne sans abri, en situation de détresse, de se prévaloir du droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre d'un référé liberté. C'est historique parce que pour la première fois, les personnes sans abri disposent d'une voie de recours. Pour rappel, le référé liberté permet d'obtenir du juge administratif, dans un délai très bref, 48 heures en principe, toute mesure qui est propre à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, atteinte qui serait portée par l'administration à un particulier. Dans le cas qui nous intéresse, il va s'agir d'une injonction. C'est-à-dire que la personne qui se retrouve à la rue, qui a sollicité le 115 sans obtenir de solution, ou qui a été remise à la rue après avoir été accueillie dans une structure d'hébergement, va pouvoir demander, obtenir du juge qu'il enjoigne à l'État de lui proposer un hébergement. Cette procédure, bien que rapide, gratuite et assez simple, nécessite le respect par le demandeur de plusieurs étapes et de formalités importantes. Il va falloir réunir un certain nombre de pièces, rédiger une attestation qui explique bien les démarches effectuées par la personne en vue d'obtenir l'hébergement. Et ces démarches, elles ne sont pas évidentes à effectuer par une personne sans l'aide d'une association, d'un travailleur social, d'un avocat, parce qu'il va falloir prouver la demande effectuée auprès du 115, mais aussi caractériser précisément la situation de détresse du demandeur. En plus, ces démarches vont devoir s'adapter au fur et à mesure de que la jurisprudence en la matière va se dessiner et se peaufiner. D'où, pour nous, l'importance d'un outil fédérateur qui va permettre de mettre en commun les expériences tirées de la pratique, les décisions obtenues et des conseils juridiques. Cet outil, il va exister grâce au 115 juridique, qui va être un site internet qui permettra de recueillir toutes ces informations et de les mettre à disposition de tous. C'est pour ça que le comité Action Logement est mobilisé en faveur du 115 juridique et qu'il espère que l'ensemble du monde de l'urgence sociale s'associera à cette action dans l'intérêt des personnes sans abri, afin que plus aucune personne ne se retrouve à la rue sans qu'une solution ne lui soit proposée, afin que l'État cesse d'ignorer ses obligations en matière d'hébergement.
Merci. Écoutez, c'est le moment où on dit qu'on est prêt à répondre aux questions des journalistes. C'est ce que nous allons faire. Je crois que les interventions qui se sont données nous donnent une indication de réflexion. Hein. Oh, la prochaine fois, on dit bah oui. Bon, de toute façon, on ne fusille plus. Il y a un grand laxisme dans ce pays. Nous vivons un moment très paradoxal. chacun sent bien que la campagne électorale, et c'est tout à fait légitime, cristallise l'attention des médias, notamment. En même temps, je crois qu'il n'y a jamais eu autant, avec une telle force dans ce pays, l'idée qu'il fallait, dans le domaine du logement, prendre des décisions qui soient des décisions d'ampleur, qui soient des décisions qui concernent l'ensemble des catégories de la population et qui rompent avec les politiques qu'on a connues, qui sont des politiques de sacrifice du logement social. C'est un moment paradoxal. Je crois qu'il va se passer dans les semaines qui viennent toute une série d'événements forts en termes de mobilisation. Je crois que le 115 est très exactement le chaînon manquant qui nous manquait, par définition, entre ces mobilisations d'ordre très général et l'outil dont nous avions besoin pour nous adresser à des cas particuliers, des cas d'urgence, avec une réelle perspective de victoire juridique, certes, mais alimentant d'autres victoires pour lesquelles nous allons nous mobiliser, qui, elles, seront plus politiques. Voilà. Bah, écoutez, question. Voilà, on fait comme à l'école. Vous levez la main, vous présentez, vous posez votre question. Et on essaiera de répondre.
Je voudrais savoir quelle est la nature exacte de ce site. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce qu'il va y avoir... les gens vont être dirigés vers des avocats, vers une permanence? Et qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans ce site?
Pour l'instant, c'est un site ressource. Hein. Il y a, bon, c'est-à-dire, c'est un site ressource qui prévoit, qui met en ligne, on va dire, le travail qui a été fait au préalable, d'une part pour saisir le Conseil d'État et ensuite pour obtenir les premières décisions au tribunal administratif.
Donc c'est plutôt à l'usage des militants, c'est pas à l'usage.
C'est à l'usage des militants, des juristes. C'est à l'usage des militants, des juristes, des personnes qui veulent aider les sans-abri, puis des sans-abri eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure.
Oui.
Les sans-abri qui connaissent le droit quand même. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc ça c'est là c'est... et c'est un outil aussi qui doit permettre aux sans-abri de dire j'ai des droits, vous n'avez pas le droit de me mettre dehors le 31 mars, puisque le 31 mars c'est la fin du plan hivernal, donc l'État va mettre plusieurs milliers de sans-abri dans la rue par exemple. Voilà, c'est un peu ça l'utilisation l'idée, c'est l'idée du chaînon manquant, c'est-à-dire que bon, ça vient consolider hein, le fait qu'il y a des droits, les sans-abri ont des droits. Aujourd'hui, il faut les mettre en œuvre. Donc, toutes les personnes qui sont solidaires des sans-abri peuvent le faire s'ils maîtrisent un petit peu l'outil juridique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Restons prudents. Les avocats ont un rôle très important à jouer, bien sûr. Et voilà. Mais également, on va dire qu'il y a un autre outil de mobilisation qui est en cours. C'est ce que les associations Tous Unis vont faire une conférence de presse. Tous Unis pour une nouvelle politique du logement font une conférence de presse le 22 mars. Et donc, également, elles vont se mobiliser par rapport à cette échéance du 31 mars, hein, de fermeture donc de plusieurs milliers de places. Donc, vous voyez, il y a une articulation, il y a une mobilisation qui a l'air de se dessiner aussi, une journée de manifestation, de grève, dans le milieu du travail social le 27 mars. Voilà. Donc, peut-être que d'ici la deuxième quinzaine de mars va être une quinzaine peut agiter sur ces questions. Enfin, en tout cas, il peut se passer quelques événements qui vont s'inscrire dans cette initiative qui montrent que cette initiative s'inscrit pas non plus comme ça par hasard. C'est-à-dire, elle vient au bon moment, finalement. Enfin.
Concrètement, est-ce que par le biais de ce site, je peux trouver un avocat qui va m'aider à faire mon référé liberté et qui va me recevoir pour monter mon dossier?
Ah, vous pouvez aller voir un avocat.
Non, mais est-ce que
vous
trouvez des noms?
Non, 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 non,
on ne fait pas de pub. Non,
c'est pas un site de pub. Non, par contre, on peut toujours conseiller à des avocats de dire regardez, là, déjà, il y a quelque chose qui peut peut-être vous aider à faire la procédure, etc. Bon.
Concrètement.
Il y a l'aide juridictionnelle quand même, hein, qui est possible. Le magistrat peut l'accorder. Peut l'accorder.
Juridictionnelle qui est tout à fait possible et qui permet de désigner un avocat pour ce type de procédure.
Il y a des modèles de recours
Oui, il y a des modèles de recours. Oui, évidemment, je ne sais pas où j'ai.
Alors, les démarches préalables, il y a les démarches.
Attention au modèle de recours, parce que bien évidemment, moi, en qualité d'avocat, je je réagis un peu violemment sur les modèles de recours, il faut faire attention puisque ça doit être adapté à la situation individuelle du demandeur. Et mais voilà, voilà, voilà une, déjà une trame. Donc, ce qui peut permettre à des avocats qui sont pas forcément au fait de toute la jurisprudence et de tout de toute les, l'argumentation juridique, de commencer à en faire, et ensuite de demander une aide auprès des associations ou auprès de confrères, par exemple syndicat des avocats de France.
Donc avec une redirection éventuellement vers des associations d'avocats.
Voilà, tout à fait. Mais travailler en collaboration, évidemment.
Alors, il y a une autre idée aussi, mais qui n'est pas encore mise en route, mais qui peut voir le jour aussi assez vite, c'est, enfin, nous, en tout cas, nous, on y pense, une permanence juridique sans abri. Commencer à défricher. Mais vous voyez, il y a aussi des modèles de courrier au préalable, c'est-à-dire avant même d'introduire le recours, de le rédiger, il y a des courriers préalables, c'est-à-dire l'État doit héberger, donc il faut saisir l'État pour demander d'héberger. Déjà, la démarche simple, hein, le fax, et comment rédiger ses courriers, comment prouver qu'on est sans abri. Vous voyez, c'est des comment dirais-je, des démarches préalables à faire qui sont absolument indispensables.
Excusez-moi, plus généralement, peut-être que vous l'avez décrit tout à l'heure, mais je suis arrivée par rapport. Est-ce que vous pourriez nous repréciser qui alimente le site et ce qu'il contient exactement? Quels sont les documents qui sont contenus, qui les met en ligne, comment ça marche? Il y a donc une rubrique aussi de témoignages, de bonnes pratiques, quelque chose comme ça. Comment est-ce que ça fonctionne?
Oui, alors,
nous décrire ce que...
Bah, nous, on a fait au plus vite, oui, parce que c'est quasiment, ça s'est monté en une petite semaine, hein, cette histoire-là. Donc, attention, il va s'enrichir.
Donc là, il y a les
l'idée, c'est d'avoir un site interactif.
Les documents juridiques de référence.
Oui, ah, oui, bien sûr. Bon, voilà. Là, il y a les décisions. D'abord, les décisions du Conseil d'État, la décision du Conseil d'État, pour les textes de loi, quelque part, en gros. Les premières décisions du Théâtre Paris, première décision aussi du Théâtre d'Orléans. Voilà, donc les premières décisions des tribunaux administratifs en référé liberté qui sont tombées, qui sont venues, et puis comment on est arrivé à obtenir cette décision. Donc c'est le travail qui a été fait par le juriste du DAL, pour l'instant, parce que c'est vous qui avez ouvert la jurisprudence, mais qui, donc, qui est mis en ligne, puis à la disposition de tous. Hein. L'idée, c'est de partager aussi ça, et d'enrichir l'outil. Hein. Donc vous trouverez des modèles de courrier hébergement pour demander un hébergement. Alors pour l'Île-de-France, donc c'est à la DRIL, hein, un modèle de courrier. Deux, un modèle de courrier à la mairie. Hein, ta préfecture. Un modèle 2 de courrier à la préfecture, c'est une petite erreur, la préfecture, parce qu'ailleurs, dans les autres départements, dans les autres régions, c'est le préfet qui est compétent. Hein, c'est le préfet du département qui est compétent. En Île-de-France, c'est le préfet de région. Et puis, voilà, bon... Modèle 3, référé liberté, mais c'est des modèles à adapter, bien sûr, à la situation des gens, de chaque personne. Hein.
Comme tout site qui va être évolutif, et comme tout site qui va nourrir des pratiques de terrain, qui se reflèteront ou pas dans le site, peu importe. Hein. À nos yeux, ce qui est vraiment décisif, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste. C'est un outil qui, s'appuyant sur une avancée de la loi, permet de mettre en débat plus largement l'idée que le logement, comme le reste, c'est une affaire de droit, et pas une affaire de marché, ou de simples rapports de force brutaux. Nous sommes dans cette situation effroyable, nous sommes arrivés dans cette situation effroyable, parce qu'il y a des politiques qui nous ont mis là, où des milliers de personnes sont quotidiennement angoissées par la question du logement, ou condamnées par la question du logement, à une dégradation sociale, voire à une mort physique. Et ce qui surplombe tout ça, c'est cette idée que ce serait normal, parce que le logement, finalement, serait une marchandise et qu'il devrait obéir simplement à la loi du marché. Or, la loi dit le contraire. La loi dit que l'État a des obligations, que ces obligations relèvent des droits fondamentaux, et à partir de là, nous avons tout intérêt, nous tous qui sommes mobilisés sur cette question, à fournir l'outil et son mode d'emploi au plus grand nombre d'acteurs possibles et à faire en sorte que les acteurs de la loi, les tribunaux, se tournent de plus en plus nombreux vers l'État en disant « mais prenez vos responsabilités ». Parce que ça peut conduire les petits ruisseaux, les grandes rivières, ça peut conduire à peser très lourdement, au-delà du fait que ça a conduit à régler des cas individuels, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ça peut conduire à créer une situation politiquement, qualitativement nouvelle sur cette question. Je ne vois pas que la prochaine majorité, quelle qu'elle soit, puisse se contenter de regarder ailleurs. Le logement sera sur la table.
Voilà, donc vous avez aussi tout le déroulé de la procédure, hein, la procédure en pratique. Bon, c'est un outil assez souple, hein, on clique pour avoir le texte de loi, on revient. Bon, tout ça donnera lieu aussi à un guide, bon, qui sera édité avec enfin, le 115 juridique, quoi. Un guide papier ou téléchargeable, vous voyez. Et tout ça, évidemment, on demande aussi à ceux qui, et celles qui obtiennent des jurisprudences, des missions intéressantes, de les renvoyer pour qu'on puisse les mettre en ligne, qu'on puisse les utiliser.
Est-ce que ce site aura vocation à aller sur le terrain du logement ou alors pour l'instant vous vous limitez uniquement à l'hébergement d'urgence ?
Aller sur l'hébergement, il est 115 juridique, il est très clair, quoi. 115 c'est sans abri juridique. Bon, s'il y a des grandes avancées à un moment donné qui viennent sur la question du logement, mais le problème de la procédure d'ALO, c'est qu'elle est bridée. Elle a été bridée délibérément. Et donc, bon, tant qu'elle ne sera pas débridée, je dirais, enfin un petit peu. Bon, c'est sûr que c'est au niveau juridique, elle sera limitée, quoi.
Ouais. C'est que non, mais juste pour faire un petit aparté, c'est vrai que cet outil est utile parce que, à mon sens, il intervient. C'est vrai comme le disaient beaucoup d'intervenants, dans un contexte de pénurie délibérée ou pas, de pénurie de logement. Et moi, à titre personnel, enfin, c'est ma petite expérience que j'ai, on touche là, véritablement, avec cette question de l'hébergement, cette question du logement, on touche véritablement à ce qu'est la misère sociale. Et c'est pour cette raison que cet outil juridique répond à une véritable nécessité sociale. Et à mon sens, il devrait y avoir un service public du logement qui devrait être mis en place, sinon on n'aurait pas ce combat à mener sans arrêt, parce que, évidemment, l'effectivité, comme je le disais tout à l'heure, la loi d'ALO avait nourri beaucoup d'espoir, et finalement, n'a pas donné grand-chose. Et que ça peut servir encore un troisième étage de la fusée, si je puis m'exprimer ainsi, ça peut servir aux politiques, et qu'ils soient au niveau national ou au niveau local, pour véritablement se saisir de cette question, qui n'est pas une question simplement d'une certaine population, mais de la population générale. Elle concerne la France entière, qu'on soit à Paris, qu'on soit en province, et que cette question du logement est fondamentale pour assurer les droits fondamentaux de nos concitoyens, tout simplement. Et l'arme le droit, c'est l'arme du pauvre. Le droit, c'est l'arme du pauvre. Et sans connotation péjorative, mais effectivement, ces outils juridiques qui sont mis en place, notre combat au quotidien en qualité d'avocat, elle est là pour dire aux politiques, voilà ce qui se passe, voilà quel est l'état de la misère sociale, et prenez vos responsabilités, comme ça a été très justement dit, prenez vos responsabilités en qualité d'État français. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que la misère sociale, on la touche à travers, on la touche vraiment du doigt à travers cette question du logement. Et c'est pas une vue de l'esprit. Je vois des gens qui arrivent dans mon cabinet qui sont malades parce qu'ils sont depuis 20 ans dans des hôtels à vocation sociale, qui sont des enfants qui présentent des pathologies très graves, et que derrière on a un État qui se désinvestit totalement au nom d'une certaine rigueur budgétaire. Mais véritablement, moi, je suis toujours choqué de recevoir ces personnes, parce que
c'est de la misère sociale la plus achevée. Voilà.
Encore une petite question pour vous. Quel va être le rôle du SAF sur ceci? Vous avez par exemple alimenté un jurisprudent, des formulaires avec les juristes du DAL. Est-ce que c'est très défini ou pour l'instant c'est...
Nous, en qualité de SAF, on est tout à fait ouvert à tout type d'initiative et notamment d'être en interaction avec le DAL ou d'autres associations pour échanger nos expériences et pour créer véritablement cette synergie pour faire avancer le droit à l'hébergement et le droit au logement. Oui, tout à fait.
Et cette permanence juridique pour l'hébergement d'urgence dont vous parliez, ce serait à quelle échéance?
Nous n'avancerons pas. Non, ce que je veux dire, c'est par contre, on a une échéance intéressante, c'est qu'on a 4 mois devant nous. 4 mois pendant lesquels ils ne pourront pas tripatouiller les lois. Non, parce que nous, on a déjà eu, si vous voulez, des mauvaises surprises au niveau de la loi Dalo. Donc, on a une période qui est bonne, là. On a 3 mois et demi pendant lesquels on peut vraiment obtenir des avancées et amener l'État à se donner les moyens d'héberger les gens. Voilà, qui sont dehors. Et ça, c'est fondamental. Parce que, vous savez, je me souviens de cette loi Dalo où ils ont plafonné les astreintes. Dès lors que les magistrats ont commencé à prononcer des astreintes de l'ordre de 3 000 euros par mois, eh bien, une loi est arrivée, au bout de la 10e décision, on plafonne pas plus que l'équivalent d'un loyer HLM. Bon. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, bon, il y a une brèche qui est ouverte et on a une période qui est favorable à la fois au plan politique et à la fois, je dirais, au plan législatif. Profitons de la période pour installer la mise en œuvre de ce droit de manière définitive.
Je voudrais ajouter juste une question pour répondre à votre question. Je pense que, alors ça c'est dans Paris, hein. Il y a un système qui a été mis en place depuis 2004 qui s'appelle le bus de la solidarité.
Par les barreaux de Paris.
Voilà, au sein des barreaux de Paris, et qui permet véritablement d'accueillir et d'héberger dans le cadre de permanence ce type de population-là. Et c'est véritablement ça. Moi qui suis aussi dans ces permanences, ça permettrait, dans un premier temps, véritablement de commencer à mettre en place toutes ces procédures juridiques, justement déjà à travers ce bus de la solidarité qui draine beaucoup, beaucoup de monde, et notamment des gens qui n'accéderaient pas forcément, qui ne pousseraient pas la porte d'un cabinet d'avocat. Et c'est par l'intermédiaire déjà de ces permanences qu'on pourrait, et je pense que ça va se mettre en place, assurer véritablement l'effectivité de ces droits en mettant en place des procédures, en orientant les gens vers des avocats ou vers des associations. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra aussi, mais ça c'est interne à Paris, hein, je ne sais pas si dans d'autres villes ça se met en place, je ne pense pas, mais c'est vrai que nous à Paris on peut par ce biais-là, rendre effectif véritablement cette nouvelle procédure de référé liberté. Voilà.
Avec éventuellement un relais prévu.
Tout à fait, mais ouais. dans ce cadre-là, si vous voulez, il faut véritablement créer une synergie et créer des relations entre les avocats, les associations, les associatifs, pour qu'on puisse assurer. Pour qu'on puisse véritablement rendre effectif ce genre de procédure. Parce que ça ne se fait pas dans un coin, un seul avocat. Et si on crée cette énergie, cette collaboration, c'est vrai que ça potentialiserait ce type de procédure-là. Et pas seulement les procédures de référé pour l'hébergement, mais aussi ce qu'on a mis en place, nous, avocats, pour assurer véritablement la deuxième étape du droit au logement opposable, c'est-à-dire l'engagement financier de l'État par l'intermédiaire de recours de plein contentieux, pour véritablement assurer, mettre l'État en face de ses responsabilités, mais seulement ses responsabilités financières. Voilà.
D'autres questions ? Bon, écoutez, si ce n'est pas le cas...
Juste, je voudrais que vous me rappeliez vos noms. J'ai le nom de la plupart d'entre vous, et pas de vous deux, et de madame.
Jean-Baptiste Hérault.
Oui.
E-Y-R-A-U-D.
Pierre Tartakovsky, il y a toutes les lettres compliquées de l'alphabet. K-W-Y.
Claire de Strat, pour la Fondation Copernic.
Clotilde Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Clotilde sans H, pour RESF.
Je vous donne ma carte parce que je ne vais pas vous embêter avec mon orthographe.
Je vous réitère mes remerciements et je vous souhaite une bonne journée.